franceinter.fr.
Voici la revue de presse. Bonjour Laetitia Gaillet.
Bonjour Patrick.
D'abord, ville fantôme.
Ran Cheroun en Syrie est aujourd'hui une ville fantôme. Une photo publiée sur le site du Guardian montre des tombes. Les rues de Ran Cheroun sont désertes et silencieuses, poursuit le journal, comme si elles pleuraient les victimes de l'atrocité commise mardi. Les seuls éléments qui rappellent ce qu'il s'est passé, c'est un petit cratère noirci là où est tombée la bombe. Et cette puanteur puissante qui vous touche les narines. Les maisons qui se trouvaient à côté sont vides, vidées des vivants qui y habitaient. Les enfants d'Assad sont morts, comme le montrait à sa une hier Libération. Une une jugée indécente et ignoble sur les réseaux sociaux, selon Russia Today, sur son site qui reprend quelques tweets. Une photo que Libé justifie ce matin par la voix de Johan Öfnagel. Cette une nous hante, dit-il. Diffuser des photos de victimes pose question. Le ferions-nous avec des petits Français? Alors que veut dire cette une? Notre indignation. Le massacre a bien eu lieu. J'espère que cette photo hantera ceux qui estiment que Bachar el-Assad commet des erreurs politiques, entre guillemets, en Syrie. Ces erreurs ont un visage. Ne détournons pas les yeux, conclut Johan Öfnagel dans Libération.
Et donc on rappelle que les États-Unis ont frappé cette nuit la base aérienne d'où a été menée l'attaque chimique de mardi.
Le Washington Post relaie ce matin sur son site les images divulguées par le département de la Défense. Une vidéo où l'on voit les navires américains stationnés en Méditerranée orientale lancer des missiles. Comment la Russie va réagir, se demande le journal. Donald Trump pourra dire à Moscou qu'il n'a cherché qu'à punir Bachar el-Assad. C'est une agression contre un État souverain, répond Poutine ce matin. Ces tirs américains sont en tout cas un signal pour le Miami Herald, la fin de la patience américaine sur le cas Assad. En arrivant en Floride hier, Rex Tillerson, le chef de la diplomatie américaine, a aussi pointé du doigt la responsabilité de la Russie et s'est repris également par le site du Monde ce matin. La Russie a échoué, dit-il. Petite phrase supplémentaire relevée par le Miami Herald, soit la Russie est complice, soit elle n'a pas été capable d'arriver à un accord avec Bachar el-Assad. En attendant, le Figaro lui s'interroge sur l'attaque chimique de mardi. Que s'est-il passé dans la tête d'Assad? Est-ce un coup de force des durs au sein de l'appareil militaro-sécuritaire? Un diplomate onusien avoue être surpris par le calendrier d'Assad. Il n'avait aucune menace sur lui depuis l'évacuation d'Alep Est. Jean-Marcel Bougreau de la République des Pyrénées résume à sa manière les choses. Selon Machiavel, il y a deux manières de combattre. L'une avec les lois, l'autre avec la force. La première est propre aux hommes, l'autre est commune avec les bêtes. Bachar el-Assad est décidément du côté des bêtes.
À lire également, Laetitia, dans la presse ce matin, la campagne présidentielle et ses à côté.
Je vous épargnerai Manuel Valls, plus isolé que jamais depuis qu'il a appelé à voter Macron, à lire dans Libération. « Tu vas tabiner pour rien », lui avait dit un proche, « attends les législatives ». Je ne dirai rien sur Wendy Renard, capitaine de l'équipe de France de football, aperçue par l'équipe à un meeting d'Emmanuel Macron. « Je n'avais pas une pancarte avec écrit Macron au-dessus de ma tête », dit-elle. « Avant d'être sportive, je suis une citoyenne. J'ai le droit d'aller voir ce qui se passe. » À peine vous dirai-je quelques mots sur la une des Échos qui a épluché les programmes des candidats. Les dépenses sont sous-évaluées et les économies pas assez documentées. Je ne vous dirai rien donc ou peu, en toute mauvaise foi, comme vous pouvez l'entendre. Parce qu'on a beau se méfier depuis longtemps de la politique, écrit Le Parisien aujourd'hui en France, les Français restent passionnés par les débats et les enjeux de cette campagne. Alors il y a ceux qui en font d'ailleurs une profession. À lire dans le magazine M du Monde, Guillaume, Arthur et Vincent, trois jeunes gens plutôt malins qui ont fondé une start-up de stratégie électorale. L'idée leur est venue de la campagne de Barack Obama en 2008. Avec son porte-à-porte modernisé, fini le hasard, on ciblait les électeurs. Avec son logiciel, la start-up est capable donc de dire aux candidats à quels électeurs parler et où leur parler. On découpe la France en 67 000 petits carrés correspondant aux bureaux de vote et on analyse les votes précédents. À gauche comme à droite ou au centre, nombreux sont les candidats à la présidentielle ou aux législatives qui font appel aujourd'hui à cette start-up. L'outil est utile, mais pas 100% efficace. Hillary Clinton était une adepte, observe une chercheuse en sciences politiques. Avec la victoire de Donald Trump, ça pousse à relativiser. Alors il y a les algorithmes et il y a aussi les mini-militants à découvrir dans Cosette, ces ados qui tractent pour les partis politiques. Charles, 16 ans, est chez les Républicains. En distribuant des tracts, j'essaie de faire voter les gens à ma place. Et il a réponse à toutes les invectives. Un jeune ne peut pas être pour Fillon, à ton âge j'étais révolutionnaire, lui dit un homme âgé. Moi, je suis un révolutionnaire de droite, répond Charles. C'est au Front National qu'on retrouve, paraît-il, le plus d'ados engagés. Julien, par exemple, a sa carte depuis l'âge de 13 ans. Qui sont ces jeunes? Il y a une constante pour le politologue Roby Morder, l'impact des valeurs dans la transmission familiale. Ce matin, on pourrait leur dire à ces jeunes qu'ils ont encore le temps de choisir par eux-mêmes, qu'en attendant, ils peuvent se nourrir, par exemple, de poésie et notamment de Jacques Prévert, dont on fêtera les 40 ans de la mort. La presse est pleine de ce jongleur de mots ce matin, La Croix, hors série de Télérama ou encore L'Humanité. De quelle couleur était Jacques Prévert? Et on revient à la politique. « Rouge de cœur », répond Luma. « J'étais révolutionnaire à 7 ans », disait Prévert, « mais ouvrir un livre de Marx, jamais, ça m'emmerde. J'aime mieux la gauche, c'est la main de l'ouvrier, c'est celle qui peut le plus, même si l'ouvrier n'est pas gaucher. » Bonne journée.
Merci, merci à vous Laetitia Gaillet pour la revue de presse sur Inter. Bonjour François Morel.
Bonjour Patrick Cohen.
Vous n'êtes ni Roubaix. À Paris, ni à Roubaix. Où êtes-vous?
Non. Je suis à Rennes.
Voilà.
Et je veux dire, Roubaix, sa piscine, son Colisée, oui. C'est roubaisien, mais c'est oui. Pas du tout le sujet de ma chronique.
Ah, très bien. Et donc, ce sera la surprise, comme chaque vendredi, et on s'en réjouit. Ben, à tout à l'heure, François Morel, dans un instant, retour à Roubaix.